qualche sedia?
Adesso vediamo.
Allora, maintenant, je dois dire comment j'ai connu Peggy. Mon fils est né, j'ai pris la décision d'apprendre ton métier. Pas vraiment devenir gondolier, mais au moins savoir conduire une gondole. Moi, j'essayais plusieurs fois, sauf que je n'ai pas le temps pour faire la pratique. Et donc, je suis spécialisé dans faire des tours quand on tape.
Vous tournez sur vous-même,
clairement. Oui, tout le geste. Non, j'avance de mètre, je crois, 1 mètre par heure. Plus ou moins ça. Mais mon fils est né. Prend la décision d'apprendre à bien voguer. Et on demande tout autour, c'est où un bon maître? On nous répond, George. Donc je vais parler avec lui, et du moment qu'on est en train de parler de quoi faire avec mon fils, combien de leçons, etc., passe une Saint-Pierrotta, pour moi c'était une nouveauté, voir cette barque, avec une femme. Tu te souviens, assez petite, Peggy, mais avec une élégance. C'était impossible de regarder ailleurs. Le moment qu'elle passait, le bateau était fluide, son geste était plein d'énergie, mais en même temps doux, très féminine et efficace. Pas d'effort, comme lui, tu regardes, il est absolument tranquille, il ne fait pas d'effort, mais le geste a une énergie masculine. Peggy, c'était une caresse. Et je me rends compte que je suis fasciné, mais je ne suis pas seul. Giorgio, il regarde cette femme. Et ça, c'est curieux, parce que tu vois, c'est pas normal. Non, un homme de cette génération-là qui regarde une femme qui fait le travail de l'homme, et il n'est pas cynique à ce point-là, mais admire. Et d'un moment, il me dit, regarde-la, ça, c'est bien fait. Et je découvre après quelques jours qu'elle était mythique. Pour tous les vieux Vénitiens, cette femme française qui avait appris dans quelques mois l'art complexe de la vogue à Veneta, était comme un miracle. Un espoir que le moteur n'aura pas détruit la tradition définitivement. C'est comme ça qu'un jour, je vois passer Peggy et je l'arrête et je dis, j'ai envie de vous parler. Expliquez-moi comment vous avez appris. Et la réponse, c'était curieux. Je ne sais pas. C'était naturel pour moi. Mais après quelques moments, elle me dit peut-être que je comprends la force, l'énergie de l'eau. Je comprends l'intelligence de l'eau. Parce que mon métier, c'est la lymphothérapeute. Mon métier, c'est de chercher dans le corps des gens qui ont une maladie ou qui ont perdu une condition d'équilibre, les nœuds où l'eau s'arrête, les nœuds que je suis capable de ouvrir, de rendre encore une fois fluide grâce à cette intelligence de l'eau. Les doigts, les mains, mon cœur suivent les parcours que l'on cherche pour trouver sa liberté. Du moment que j'étais en train de suivre le discours de Peggy, j'étais plus capable d'imaginer dans ma tête un bateau, l'eau du canal, le rame. J'avais visualisé rien d'autre que un instrument à cordes, l'intelligence musicale, la partition de la musique. Et cette partition était là, prête pour être traversée avec intelligence ou stupidité. L'intelligence s'était passée à travers les notes et la structure avec un fluide continuel, énergétique, à travers toutes les expressions possibles, mais sans arrêt, comme l'eau qui passe de ruisseau en fleuve, en rivière, à la mer, à l'océan. C'était dans ce moment-là que je récupérais dans mes mémoires une vieille leçon du début de ma carrière de violoncelliste, dans laquelle le grand violoncelliste Paul Tortelier, c'était plus ou moins le début des années 70, arrêtait un élève qui avait commencé le prélude de la première suite de Bach pour lui dire « Attends, attends, trop de choses, trop d'expressions. Souviens-toi, qu'est-ce que le nom Bach signifie dans la langue allemande ?» L'élève le regarde sans comprendre et Paul lui dit « Bach signifie le ruisseau. » Et donc, la musique que tu joues doit être fluide, doit descendre comme l'eau vers la mer. Et ça, c'était une image forte, énormément forte, qui restait dans mon cœur, dans ma tête ensemble, qui m'a accompagné pendant des années, avec pas seulement la musique de Bach, jusqu'au moment que je me suis trouvé emprisonné dans cette image. La musique ne pouvait pas seulement être de l'eau qui descend. C'était mon âme qui avait besoin de descendre avec l'eau, de passer à travers toutes les formes qu'on trouve dans le monde, sur la terre, qui deviennent la forme de l'eau.
Que veut dire Bach? Bach, tu le sais, toi qui es allemand? Ruisseau. Ce ruisseau va à la rivière et la rivière va à la mer. Alors c'est ça qu'il faut ménager, c'est une progression. Ça va commencer délicatement et poétiquement. Si tu mets trop d'expression, cette eau ne coule plus. Cette eau limpide, n'est-ce pas, si tu fais... c'est une caricature, mais c'est excessif, c'est un romantisme outré. Mais si tu veux faire un Bach abstrait, comme on a fait malheureusement pendant un siècle ou plus, ce qui fait qu'on a tué Bach, qui n'était pas joué, alors l'eau va être froide. Ça n'est plus un Bach à la gloire de Dieu ou de la nature, c'est un Bach à la gloire du métronome. C'est ce qu'on fait malheureusement dans les arrangements Loussier et autres. On joue un Bach jazz, ça c'est épouvantable, il faut empêcher ça. Si tu veux, les états d'âme sont au ciel. Le ciel est bleu et c'est la joie, le ciel est lumineux. Ou bien un nuage passe et c'est tout de suite une nostalgie qui vient se greffer. Eh bien, on a tous ces détours, et suivant que l'eau prend telle et telle direction, l'eau avec laquelle il nous conduit, ces états d'âme vont passer, mais comme des reflets, pas appuyés, légers. Alors, nous allons prendre la fin, parce que alors, la fin, c'est là, c'est cette illustration du ruisseau qui s'élargit et qui va retrouver la mer. On précipite les ondes, tu vois les petites ondes ici. Il y en avait deux qui venaient une fois sur deux. Maintenant, elles se succèdent. Sur le plan motorique, comme on dit en langage moderne, on a cette précipitation, le flot qui se précipite. Redescends. Il a cru. On a cru que c'était la sortie. C'est une fausse sortie. Vois-tu, c'est une fausse sortie. Alors, faut bien le faire, ça. C'est la bonne. Voilà. Bon. Est-ce que c'est clair, maintenant? Le plan général est clair.
Faire de la musique aujourd'hui devrait obliger le musicien à la faire comprendre aux gens. Les gens devraient dire « Je la reconnais, c'est de la musique et j'ai compris ce qu'elle veut me dire. » Parce qu'il y a et il y aura un monde toujours plus babélique, confus, dans lequel la seule langue universelle sera la musique. Notre devoir sera d'empêcher qu'elle devienne une langue comme toutes les autres, le véhicule de séparation et de conflit, ou une tour de Babel qui impose l'autorité d'un maître unique et d'une pensée unique. »